S'il y a autant de films d'horreur qui commencent par l'arrivée d'une famille dans une nouvelle maison, supposée être idyllique, ce n'est pas par hasard. La fiction ne fait que s'inspirer de la réalité. Et l'histoire regorge d'anecdotes terrifiantes concernant l'arrivée des familles dans leur nouveau foyer. Dans le cas de la famille Adams, qui porte bien son nom, le problème ne vient pas de la maison tout entière, mais d'une pièce en particulier, qui semble être déjà occupée par une entité pas super encline à partager son territoire. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 7. Le podcast qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Lorsqu'ils arrivent dans leur nouvelle maison au début des années 60, Bill et Lillian Adams n'ont aucune raison de se méfier. La demeure, aux larges fenêtres et au charme désuet, donne sur un jardin oublié par le temps. Elle semble être l'endroit idéal pour écrire un nouveau chapitre de leur vie de famille. Certes, il y a cette toute petite chambre tout au fond qui effraie les 5 enfants et le chien de la famille, mais pas de quoi s'alarmer pour les adultes. Après tout, la maison est ancienne, et il est courant que de vieilles bâtisses comme celle-ci cachent quelques recoins moins accueillants. Les parents, toujours pragmatiques, pensent que cette aversion pour la chambre est simplement due à son aspect peu engageant. Objectivement, elle n'a rien de chaleureux. Il est donc normal que l'imagination fertile des enfants s'emballe. Quant au chien, qui n'a jamais montré signe de peur auparavant, allez savoir ce qu'il a pu sentir dans cette pièce. Peut-être une odeur laissée par les précédents occupants, ou une carcasse d'animal nichée dans un recoin. Mais cette pièce minuscule, dans laquelle il n'y a de place que pour un lit et le placard intégré, ne présente a priori aucune menace pour la sécurité de la famille. Ce n'est que lorsque Bill commence à utiliser la chambre que les problèmes commencent pour eux. L'homme travaille de nuit à l'usine Cadillac de la ville et rentre donc chez lui aux alentours de 7 heures du matin, alors que la journée de sa famille ne fait que commencer. Pour pouvoir dormir paisiblement sans être perturbé par le bruit de ses enfants qui jouent, il choisit donc d'aller se coucher dans la petite chambre du fond, isolée du reste de la maison, pour être plus tranquille. Mais à chaque fois qu'il y dort, son sommeil est perturbé par des cauchemars si violents et si terrifiants qu'il se réveille parfois en hurlant, jusqu'à en avoir mal à la gorge. Un jour, il rêve que la porte du placard s'ouvre et qu'un cadavre mutilé tombe à ses pieds. Les nuits du pauvre homme sont si souvent perturbées et si peu reposantes qu'elles commencent sérieusement à affecter son quotidien. Chaque matin, il se réveille plus épuisé qu'avant de se coucher, comme si son corps avait lutté contre des fantômes toute la nuit. Cette fatigue incessante l'enveloppe d'un voile de lassitude permanent, altérant sa concentration et sa patience au travail. Il est constamment sur les nerfs, son humeur est changeante et il devient morose. Son entourage commence à remarquer ces changements, s'inquiétant alors pour sa santé et son bien-être. Ce n'est que lorsqu'il passe plusieurs nuits paisibles dans sa chambre avec sa femme qu'il commence à faire le lien entre ses cauchemars et la petite pièce du fond de la maison. Cette révélation le prend par surprise. Au début, il refuse d'y croire, se disant que ce ne sont que des coïncidences. Mais la corrélation devient trop évidente pour être ignorée. Effectivement, à chaque fois qu'il décide de passer une nuit dans cette pièce, il en ressort invariablement exténué. À l'inverse, toutes les nuits passées dans le confort de sa chambre matrimoniale, aux côtés de son épouse, se déroulent sans le moindre cauchemar, lui permettant de se réveiller véritablement reposé et de bien meilleure humeur. Malgré cette conclusion, lorsque la mère de Bill vient passer une semaine chez eux en août 1962, il l'installe dans la petite chambre du fond. Il ne lui raconte pas ses cauchemars, ne parle pas du tout de ce qu'il a vécu dans cette pièce, pensant encore à ce moment-là que le problème vient de lui. C'est donc sans aucune appréhension que la femme va se coucher, une fois la nuit tombée. Le lendemain matin, lorsqu'elle émerge pour rejoindre le reste de la famille dans la cuisine, l'expression de son visage est révélatrice. Sa peau a pris une teinte pâle, presque fantomatique, et les lignes de son visage semblent plus marquées. Ses traits sont tirés. Ses yeux, normalement pétillants d'énergie, sont voilés et marqués de cernes noires. Quand on lui demande si tout va bien, elle répond qu'elle a très mal dormi. Son sommeil a été perturbé toute la nuit par des bruits étranges dont elle n'est pas parvenue à trouver l'origine. Elle ajoute, non sans un frisson de terreur, qu'elle a eu l'impression que quelqu'un tentait désespérément d'entrer dans la chambre par la porte du placard, comme s'il renfermait un passage secret. Elle conclut en ajoutant qu'il est hors de question qu'elle y passe une nuit de plus. Elle est d'ailleurs si perturbée par cette première nuit qu'elle décide de raccourcir considérablement son séjour et rentre chez elle au bout de 2 ou 3 jours. En octobre de la même année, ils reçoivent la visite d'un ami, Shirley Patterson, qui lui aussi prévoit de passer quelques nuits sous leur toit. Shirley est un homme pragmatique et terre-à-terre, pas du genre à croire aux esprits et aux farfadets. Et Bill et Lillian Adams se disent que s'il dort paisiblement dans cette chambre, c'est qu'ils n'ont pas à s'en faire. Alors ils l'installent dans la chambre du fond, sans jamais parler de leurs expériences déplaisantes pour ne pas l'influencer. Le soir, Shirley se met au lit, prêt à passer une bonne nuit bien reposante. Il s'allonge sur le côté, face au mur, mais au bout de quelques minutes seulement, il sent quelqu'un ou quelque chose le retourner, comme si on l'avait poussé pour le forcer à changer de position. Il découvre avec stupeur que quelqu'un se trouve dans l'encadrement de la porte, dos à lui. Il pense d'abord qu'il s'agit de Lillian. C'est une silhouette féminine aux cheveux longs, vêtue d'un manteau de fourrure et d'une robe bleue. Lorsqu'il réalise que ce n'est pas Lillian, Shirley pousse un rugissement et bondit de son lit, fonçant sur la silhouette qui, bien sûr, s'évapore sur son passage. Une fois dans le couloir, il constate que toutes les lumières de la maison sont éteintes. Il avance à tâtons dans l'obscurité, en direction de la cuisine, où il retrouve Lillian pile au moment où les lumières se rallument. Il lui explique ce qui vient de lui arriver en bégayant, mais son récit est interrompu par un hurlement, mi-humain, mi-animal, venant de la petite chambre. Les deux amis restent muets, choqués par ce qu'ils viennent d'entendre, quand une odeur nauséabonde venant de la même direction leur arrive soudain aux narines. Elle est tellement immonde qu'ils ont tous les deux des haut-le-cœurs et s'efforcent de ne pas vomir. Soudain, une trappe se trouvant dans la buanderie, juste à côté de la cuisine, se soulève toute seule avant de retomber bruyamment. Elle donne sur des escaliers délabrés qui mènent vers une cave dont la construction n'a jamais été achevée. Lorsqu'ils retrouvent enfin la capacité de bouger et de réfléchir, Lillian et Shirley se jettent sur le téléphone de la maison et appellent la police. Le lendemain matin, quand Bill rentre de l'usine, sa femme et son ami l'attendent de pied ferme. Ils lui racontent immédiatement toutes leurs mésaventures. Bill décide de prendre les choses en main. Ce soir-là, vers 19h30, il laisse sa femme et son ami dans le salon et va s'allonger dans la petite chambre. Toutes les lumières sont éteintes, il est plongé dans l'obscurité et le silence et attend patiemment de voir si quelque chose se manifeste. Soudain, il sent la présence de sa femme dans la pièce et lui dit gentiment de retourner dans le salon pour le laisser gérer ça tout seul, ajoutant que l'entité ne se montrera sûrement pas s'ils sont deux. Lillian ne répond pas. Pourtant, Bill sent toujours sa présence à quelques mètres de lui. Il se retourne tout doucement et se retrouve nez à nez avec un visage qui n'est pas celui de sa femme. Ses yeux sont écarquillés et sa bouche grande ouverte, bougeant comme pour parler, mais ne laissant échapper qu'un étrange sifflement distant. Ce qui frappe le plus Bill, c'est l'odeur qui émane de ce faciès. Une odeur de putréfaction, immonde et écœurante. Sans réfléchir, l'homme se jette alors hors de la pièce en hurlant comme un damné, s'arrachant les cheveux par poignées. Shirley parvient à l'attraper et à l'immobiliser au bout de quelques instants, mais l'homme continue à crier et à se débattre violemment. L'odeur ignoble émanant de la chambre du fond se met alors à embaumer toute la maison. Quelques heures plus tard, la maison est vide. Bill et Lillian sont allés réveiller et habiller leurs enfants, Shirley a fait sa valise et tout le monde a quitté cette demeure maudite. Le matin même, les Adams s'emménagent chez les parents de Lillian, en banlieue de Détroit. Mais avant que la maison ne soit complètement vidée de ses meubles, le frère et la sœur de Lillian, Léo et Virginia, décident de tenter leur chance eux aussi. Ils ont du mal à croire à tout ce que leur sœur et leur beau-frère racontent et se demandent si tout ça n'est pas juste un canular ou un cas d'hystérie collective. Personne dans leur famille ne croit au surnaturel, et ça ne va certainement pas commencer aujourd'hui. Alors que les Adams restent bien à l'abri de leur côté, Léo et Virginia préparent leur baluchon et se dirigent vers le 5508 Martin Street. Ils s'y rendent à la tombée de la nuit et posent leurs affaires dans la grande cuisine. Virginia s'installe à la table avec un livre pour l'occuper et la garder éveillée, et Léo va s'installer dans la petite chambre. Il informe sa sœur qu'il a l'intention d'y rester 10 minutes, après quoi il la rejoindra pour lui raconter ce qu'il a vu. Si le cœur lui en dit, Virginia pourra à son tour faire la même expérience après lui. Léo s'allonge, Virginia reste à sa place, la maison est plongée dans un silence de mort, et chacun de leur côté, ils attendent. Au bout de quelques minutes, la tranquillité de Virginia est perturbée par un bruit étrange venant de la chambre. Il s'agit d'un gémissement qui ne ressemble en rien au son que son frère est capable de produire. À vrai dire, elle ne serait même pas capable d'affirmer si la voix est humaine ou animale. À peine a-t-elle eu le temps de s'inquiéter qu'elle entend un vacarme venir du fond de la maison. Léo déboule alors dans la cuisine, essoufflé, les yeux exorbités, le visage marqué par la terreur et l'incompréhension la plus totale. Virginia se jette sur ses pieds, faisant tomber la chaise sur laquelle elle était assise, puis se rapproche de son frère. Elle lui demande ce qu'il a vu, s'il va bien, s'il a mal quelque part, mais Léo ne répond pas. Il est pâle comme la mort et refuse de regarder sa sœur dans les yeux. Virginia lui repose les mêmes questions, encore et encore, le suppliant de lui répondre, de lui dire ce qu'il a vu, mais Léo se contente d'agiter frénétiquement la tête et refuse catégoriquement de raconter ce qui lui est arrivé. À ce jour, on ne sait toujours pas s'il a fini par raconter sa mésaventure à ses proches. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'aucun membre de leur famille, de sang ou par alliance, n'a jamais remis les pieds dans cette maison de nuit après ça. Lorsque les Adams ont trouvé une autre maison dans laquelle s'installer, ils se sont assurés de ne revenir que de jour et accompagnés de plusieurs de leurs amis pour venir récupérer leurs meubles et vider entièrement la maison de leurs possessions, et sans mettre un seul orteil dans la petite chambre du fond. L'histoire ne dit pas si les locataires qui ont succédé aux Adams ont vécu la même chose ou s'ils ont trouvé grâce aux yeux de l'entité qui vit dans la petite chambre. Mais si jamais vous deviez vivre quelque chose de similaire, j'ai une petite astuce pour vous. Si un démon, un fantôme ou une goule quelconque cherche à vous traumatiser sous votre toit, traumatisez-le en retour. Si on vous empêche de dormir la nuit, faites encore plus de bruit. Hurlez, frappez sur les murs, envoyez des objets voler à travers la pièce en criant des trucs en latin ou en araméen. Soyez plus terrifiant encore que les poltergeists qui cherchent à vous nuire. Un visage terrifiant apparaît à quelques centimètres du vôtre au milieu de la nuit, criez-lui dessus, moquez-vous de son apparence, insultez sa famille. Une créature démoniaque s'assoit sur votre poitrine pendant que vous dormez, allez hop, un petit tour de rodéo, secouez-vous dans tous les sens et prenez votre plus belle voix de forain pour mettre l'ambiance. Y a pas de raison que ça aille que dans un sens, ce bordel. Vous laissez pas faire. Faites quand est un podcast d'Énergie Création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.